Bonjour mes frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous encore ce matin. Je ne sais pas si on ne peut pas diminuer légèrement le volume, j'ai l'impression que ça résonne trop fort. On m'appelle souvent Mas 2, pour rappel, Mas c'est mon nom d'artiste, M comme Munga, le nom de deux jumeaux. Le premier-né des jumeaux, ça, c'est mon frère qui s'appelle Munga, et AS de Asukulu, c'est moi. Ça veut dire le second, le deuxième-né. Alors, je suis Mas 2 parce que je suis le deuxième. Mon nom, c'est Asukulu. Voilà, Charles, c'est mon prénom, mais que j'avais perdu étant d'origine congolaise, Congo de Mobutu. Je suis né à l'époque du Congo belge, et à l'époque, j'étais prénommé Charles. Mais à un moment donné, Mobutu a dit qu'il fallait jeter tous ces noms étrangers à la poubelle. J'ai dû donc jeter mon nom à la poubelle alors que j'étais en deuxième secondaire. Quand j'ai terminé ici à l'université en Belgique, Mobutu a dit « Vous pouvez reprendre vos prénoms ». C'était trop tard pour l'administration, mais c'est mon prénom de naissance, mais qui est moins connu par rapport à mon nom d'artiste Mas. Voilà pour la petite histoire. Je viens donc de Braine-l'Alleud, comme vous le savez, où je suis pasteur, dans l'église de sœurs des APEB. Et quand j'y suis entré, je me souviens d'une plaisanterie de mon frère Benoît qui m'a dit « Maintenant tu es un vrai frère, parce que tu es dans les assemblées des frères. » Je suis devenu donc votre vrai frère. Ce matin, j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans la Genèse, le premier chapitre. Mais avant cela, remettons encore ce moment entre les mains du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, de ce que tu es avec nous. Tu as été là depuis le début de ce culte et tu nous attendais déjà en ce lieu qui est ta maison. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous conduis dans ta fidélité telle qui nous a été présentée ce matin depuis le début. Et tu es fidèle, Seigneur. Dans cette même voie de fidélité, Seigneur, nous te remercions d'être encore là et de nous bénir, de nous ouvrir les oreilles de chair et d'esprit pour que nous saisissions ce que tu as à nous dire et que ton esprit nous vienne en aide. Afin que, Seigneur, ta parole, nous en faisions une pratique. Nous puissions vivre d'elle jour après jour. Au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 1. Nous lirons du premier au cinquième verset. Je ne sais pas si je peux demander de temps en temps aux volontaires, à une ou à un volontaire, de lire, si ça ne dérange pas. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient la ville et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière, jour, et les ténèbres, nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier.
Merci. Lisons dans Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, à partir du verset 4. L'évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 4. Nous pouvons nous arrêter au verset 14. Encore un ou une volontaire.
Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, se trouvant en Judée, dans la ville de David, après de l'Éphraïm, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui est enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie les attachait arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'enveloppa dans l'ombre, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis grand frayeur. Mais là aussi, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau roué entouré de l'ange et couché dans tout endroit. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. »
Merci beaucoup. Jusque-là, la lecture. Nous lirons aussi quand même tout à l'heure et tout de suite, encore dans Genèse, chapitre 3, le verset 15. Je peux le lire. Et puis d'autres références, nous les lirons tout au long de ce message. Genèse, chapitre 3, le verset 15, que je vous lis. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à quelques semaines de la célébration de Pâques. Peut-être vous allez vous dire, mais comment est-ce que je vous lis un texte sur la naissance alors qu'on est en pleine période pascale? Ma thématique ce matin, c'est le combat de corps à corps entre la lumière et les ténèbres. Le combat de corps à corps entre la lumière et les ténèbres. Et c'est dans l'ensemble de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis l'aube des temps, depuis déjà ici dans le livre de la Genèse, et nous allons essayer de voir tout au long de l'Écriture, donc de la parole de Dieu, la véracité de ce combat de corps à corps. Pour les plus âgés d'entre nous qui ont probablement vécu la guerre 40-45, ou pour les moins âgés qui l'ont apprise par l'histoire, nous savons qu'il y a eu à un certain moment une certaine guerre qu'on a appelée la guerre de Normandie, n'est-ce pas? La guerre de Normandie, c'était un débarquement terrible, quand on voit par le cinéma, un grand débarquement des alliés, des soldats alliés, et qui ont mené un combat terrible, farouche, de corps à corps, entre donc les alliés contre les soldats allemands ou alémaniques, ou donc des nazis. Et c'était une victoire formidable. Plus près de nous, le combat en Irak. Il y a eu de bombardements aussi, d'abord, mais à un moment donné, il a fallu une infanterie, donc les soldats terrestres, pour pouvoir en finir, si on peut parler de ça, en finir, avec toute la guerre qu'il y a eu, et récemment encore, contre le Daesh, etc. Il a fallu, au-delà des bombardements, qu'il y ait une approche terrestre de combat de corps à corps. C'est très important. De telle sorte que l'aviation peut affaiblir le camp ennemi. Mais l'armée qui parachève l'affaire, c'est une armée terrestre où on s'affronte l'un contre l'autre. Et Dieu annonce déjà cette sorte de combat. C'est vrai que cette période que nous vivons, c'est une période où on est très allergique au mot combat, et surtout dans le milieu ecclésiastique. Parler du combat dans l'Église, c'est comme si on est en train de susciter les gens pour qu'ils puissent aller combattre. Et ce n'est pas du tout mes propos, pas du tout. Je ne suis pas ici en train de dire « allez combattre ». Non, c'est pas ça. Je parle dans le cadre du combat spirituel entre les ténèbres et la lumière. Revenons au texte de la Genèse. Avant de parler de Genèse chapitre 1, parlons du chapitre 3. Lorsque Adam et Ève commettent l'irréparable, qu'ils ont commis le péché d'avoir mangé le fruit défendu, entre autres choses que Dieu dit, il va dire à la femme, ce que nous avons lu au verset 15, et par rapport à la femme et au serpent, il va dire que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent, et que le serpent blesserait le talon de la femme. Lorsque quelqu'un écrase la tête du serpent, il s'agit là d'un combat qui n'est pas distant, n'est-ce pas? Mais il est serré de corps à corps. Et que le serpent puisse blesser le talon, c'est aussi un combat de corps à corps. Dieu annonce les couleurs. Il annonce les couleurs. Revenons à Genèse 1. Qu'avons-nous lu au premier verset? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était en forme et vide, donc il n'y avait que le chaos. Et qu'est-ce qui nous est dit qui était sur la surface de l'abîme? Avant cela, dans ce chaos-là, qu'est-ce qui est dit? J'aimerais qu'il y ait une interaction, hein, veuillez répondre. Sentez-vous libre. Qu'est-ce qui est aussi dit là? Qu'est-ce qu'il y avait sur la terre, la surface de l'abîme? Les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Et alors, il y a un être spirituel qui se mouvait sur la surface des eaux. C'est l'Esprit de Dieu. Et alors, Dieu va parler. Ici, mes frères et sœurs, et je vais juste le dire, mais sans entrer dans les détails. Lorsque Dieu va faire la suite de la création, quand il va dire que la lumière soit, etc., jusqu'à la fin du chapitre de la Genèse, il y avait déjà le ciel et la terre. Dieu avait déjà créé le ciel et la terre. Et il avait déjà créé l'eau. Ces trois éléments étaient créés avant la suite. Avant la suite, pour dire que entre le verset 2 et le verset 3, il y a un shift, un quelque chose qui n'est pas dit, qui va être dit dans les livres des prophètes, c'est que Dieu a créé en deux étapes. Cette première étape où il crée le ciel, la terre et l'eau, et après ça, entre la suite où il va entre cela et la suite. Et le Satan, qui s'appelait avant Lucifer, qui était le chef de la louange de Dieu, le chef de la louange de Dieu, c'est lui qui dirigeait toute la louange, mais à un moment donné, il a piqué une jalousie contre Dieu, le Créateur, et il voulait être comme lui ou supérieur à Dieu. Et Dieu l'a éjecté dans le bas monde. Alors, Satan, en ce moment-là, son nom va changer de Lucifer en Satan ou le diable. Et Satan va mettre tout sens dessus dessous. C'est le verset 2 qui nous dit la terre était chaos. C'est un mot traduit de l'hébreu tohu vabohu. En français, pour les vieux, pour moi, il y a un mot qu'on dit tohu bohu, n'est-ce pas? Les jeunes l'utilisent de moins en moins, ou peut-être pas du tout. Tohu bohu, c'est un mot qui a été traduit de l'hébreu tohu vabohu, c'est-à-dire tohu et bohu. Ça veut dire désordre, chaos terrible. Quand Satan a mis tout sens dessus dessous, Dieu va alors ordonner sa création. Il y a des choses qu'il va créer, il y a d'autres qu'il va organiser, comme l'eau d'en haut, d'en bas, etc. Mais ce n'est pas notre thème. Notre thème, c'est les ténèbres, la lumière. Alors, il est dit que avec ce chaos-là, il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Et Dieu a déjà envoyé son esprit sur la surface de l'eau. Donc Dieu descend pour attaquer les ténèbres.
Or, la Bible nous dit, en d'autres références, que les ténèbres, c'est Satan. Satan est représenté par les ténèbres, le prince des ténèbres, les ténèbres. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et rien n'a été fait sans que la parole ait été là. Et la parole était la lumière du monde qui est venue dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière était, donc Jésus-Christ était la lumière qui est venue dans les ténèbres. Alors, revenons à Genèse. L'esprit est là. Dieu va commencer à attaquer. Et quelle est la première chose que Dieu va attaquer? Verset 5, première création, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Que la lumière soit. Donc il attaque tout de suite les ténèbres. La première chose, il attaque les ténèbres. Que la lumière soit. Et la lumière, voilà, les ténèbres s'enfuient. Alors, Dieu qui avait déjà dit que la descendance de la femme allait écraser la tête du serpent, le serpent qui représente Satan, qui est Satan, les ténèbres. Dieu annonce les couleurs de ce combat qui va avoir lieu entre la lumière, qui est Jésus, et les ténèbres, qui est Satan. Que la lumière soit, et la lumière fut. Nous reviendrons tout à l'heure à la fin de ce chapitre 1 pour continuer. Et cette descendance de la femme, c'est qui? C'est qui sinon Jésus-Christ qui est né sans intervention d'un homme? C'est la descendance de la femme. Ce n'est pas une descendance normale où tout le monde naît d'un père et d'une mère. Mais Jésus seul est né d'une femme, avec la puissance de l'Esprit de Dieu qui a couvert Marie, de même que l'Esprit de Dieu a couvert la surface des eaux dans la Genèse. Et alors, la lumière va naître, va venir. Et Jésus, par l'Esprit de Dieu qui couvre Marie, lui Jésus qui est la lumière, va naître. Et quand est-ce que Jésus naît? C'est là où nous allons à Luc 2. Quand est-ce que Jésus est venu au monde? La journée ou la nuit? Dites-moi. Soyons libres, mes frères. J'aimerais, mes sœurs. La nuit. Tout ça, c'est significatif. Jésus est né pendant la nuit. Quels sont les indices qui nous le montrent dans le chapitre 2? Je suis aussi enseignant, donc vous en faites tout pour ça. Quels sont les indices dans le chapitre 2 de Luc qui montrent que c'est la nuit? Les bergers qui passaient là pendant la nuit. Mais aussi, il y avait des étoiles. Mais avant cela, il y a un indice qui est un peu qui se cache avant cela. C'est l'hôtellerie, l'hôtel, l'auberge. Il faut nous rapporter dans l'ancien temps. Revenons un peu dans l'ancien temps. À cette époque-là, les hôtels généralement étaient à distance entre des villes, des villages, parce que pour les gens qui marchaient, des voyageurs, parce que si la nuit tombait, ils devaient s'arrêter là et dormir. Avec le temps, des hôtels, des auberges ont été construites aussi dans des villes, dans des cités. Et c'était pour que des non-habitants des lieux puissent trouver où dormir. C'est pour cela que quand on voit l'hôtellerie ou l'auberge dans Luc 2, ça indique que c'est la nuit, parce que les gens vont dormir la nuit. Ça, c'est un des indices. Et alors, un autre indice, c'est la lumière qui va resplendir. Si elle resplendit, lorsque les anges vont faire un défilé céleste, la lumière resplendit davantage la nuit, n'est-ce pas? On voit. Donc ce sont des indices que Jésus est venu dans le monde pendant la nuit. Revenons à Genèse. Quand est-ce que l'Esprit est descendu sur la terre? Pendant les ténèbres. Et Jésus, Dieu va dire que la lumière soit, et la lumière fut. Or, Jésus, c'est la lumière du monde. Et il vient pendant la nuit. Il vient pendant la nuit. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Colossiens chapitre 1? Qu'est-ce qui est écrit là au verset Colossiens chapitre 1? Verset 15. On peut lire jusqu'au verset 18.
Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature.
Jusque-là d'abord, il est né avant toute créature. D'autres versions disent le premier-né de la création. Né avant toutes les créatures. Vous allez continuer jusqu'au verset 18 tout à l'heure. Mais en quoi Jésus est-il l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, né avant toute la création? En quoi?
En image de la lumière.
Il est le premier-né de toute la création parce que Jésus étant la lumière. Dans Jean chapitre 1, Dieu a créé la lumière avant autre chose. Que la lumière soit, c'était la première des créations. C'est en ce sens que Jésus est la première des créations. Jésus est créé avant. Et nous allons arriver au verset 17-18.
Car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Domination, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est lui avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne lui la première place.
Merci beaucoup. Jésus est toujours le premier en toutes choses. Il est même le premier-né d'entre les morts. Et nous reviendrons à ça tout à l'heure. Le premier-né d'entre les morts, la tête du corps de l'Église, c'est lui, Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Que la lumière soit et la lumière fut. Et elle fut pendant qu'il y avait des ténèbres. Alors Jésus est né pendant les ténèbres. Pour dire à Satan, « Me voici, je suis là, j'arrive, j'atterris maintenant dans ton territoire, je viens t'attaquer. C'est toi, les ténèbres, je suis là. On va maintenant s'affronter. » Pour dire que, avant cela, Dieu a envoyé des prophètes, des serviteurs, des sacrificateurs, comme des missionnaires. Un peu comme on pouvait attaquer par des bombes, par de l'aviation. Mais à un moment donné, Dieu dit, maintenant, après avoir affaibli Satan, je vais maintenant l'attaquer par un combat de corps à corps. Mon fils, tu y vas la nuit. Puisque avant de te créer, entre guillemets, la lumière, entre guillemets, parce que Jésus existe tout le temps, on le sait bien, il y avait les ténèbres. Vas-y. Jésus vient. Mes frères et sœurs, quand est-ce que Jésus a été arrêté? La nuit. La nuit où nous célébrons tout à l'heure, nous avons célébré les éléments, la Sainte Cène. Jésus a été arrêté la nuit. Jésus est né la nuit. Il est arrêté la nuit. La nuit où il fut livré. C'est cette nuit-là où Jésus va combattre les ténèbres, en rapport avec Genèse, chapitre 1, le premier-né de toute la création. Et quand même, puisque nous sommes dans l'atmosphère de Pâques, Jésus est arrêté la nuit. C'est quel jour de la semaine? Il y en a qui disent jeudi, il y en a qui disent vendredi. Tous les deux, vous avez raison. Pourquoi vous avez tous les deux raison? Jeudi, le jeudi saint, dans notre terreau mental occidental, dans notre réflexion occidentale, nous comptons les jours à partir de minuit. Jusqu'à minuit, à partir de minuit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah voilà. C'est ça, nous comptons jusqu'à minuit. Donc, le jeudi saint, tombe, donc cette nuit-là, une partie tombe le jeudi. Quand Jésus a institué la scène, c'est le jeudi. Mais dans le terreau mental juif, ce n'est pas le jeudi, c'est déjà le vendredi, c'est ça que je dis, vous avez tous les deux raison. Parce que les juifs, est-ce que ça passe? Voilà, merci. Les juifs comptent les jours à partir de la tombée du soleil. Dès que le soleil se couche, ce n'est plus le jeudi, c'est déjà le vendredi. Et cette nuit-là, où on va célébrer la Pâque juive, Jésus va dire ces éléments, c'est mon corps et c'est mon sang, ce jour-là. Et la nuit, cette nuit-là, c'est déjà le vendredi dans le terreau mental juif, c'est déjà le vendredi. Et Jésus dit, allons à Gethsémané, c'est la nuit où il va prier, Père, si c'est ta volonté que cette coupe s'éloigne, mais non la mienne, mais que ta volonté soit faite. C'est la nuit. Et quand l'un de ses disciples, le traître, Judas, va amener la cohorte des soldats, c'est la nuit du vendredi saint. Jésus est arrêté la nuit. Il est né la nuit. Il est arrêté la nuit. Et quand il va monter à la croix, vers 9h du matin, qu'est-ce qui est écrit? À un moment donné, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la surface de la terre? Les ténèbres, entre midi et 15h. Les ténèbres, c'est par là que Jésus va mener le combat final. Tout de suite, c'est les ténèbres. Satan vient avec toutes ses griffes et la représentation. Est-ce que je parle trop fort? Je pourrais diminuer. Excusez-moi. C'est l'Africain qui parle avec... Voilà. Alors... Jésus arrive, il est sur la croix et c'est en ce moment-là, hein, le vrai combat qui a été représenté avant va se mener. Entre midi et 15h, il y eut des ténèbres sur la surface de la terre. Il y avait aussi les tremblements de terre. Et là dans le temple, le rideau du temple s'est déchiré, pas de bas en haut, mais de haut en bas. Ça montre que c'est la puissance de Dieu. Parce que si c'était de bas en haut, c'était humain, ça aurait été humain. Mais c'est Dieu qui coupe, ça pour dire que maintenant c'est ouvert. Mais ce n'est pas notre thème. Alors, en ce moment-là, Jésus va dire, tout est accompli. La victoire de Jésus sur les ténèbres. Tout est accompli. De telle sorte qu'on pourrait dire maintenant, en nous reportant à Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Et à partir de ce jour-là, il est écrit, ce fut quel jour? Dans Genèse 1, ce fut quel jour? Premier jour, ce fut le premier jour. Mais maintenant, revenons dans la langue originale, l'hébreu. Ce n'est pas écrit dans l'hébreu que c'était le premier jour, c'est écrit, c'était le jour 1. Jour 1. Les autres jours, c'est deuxième, troisième, jusqu'au septième. Mais le jour 1, ce n'est pas le premier. Jour 1. Pourquoi ça, mes frères et sœurs? C'est là qu'on va encore revenir à... Il est le premier-né d'entre les morts, dans Colossiens. Jour 1, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis, j'ai rencontré une femme... Quand je venais ici, est-ce que vous vous attendez à ce que je vous dise, j'ai vu une deuxième, une troisième? Oh, vous êtes timide là. Non, pas nécessairement. Mais si j'ai dit, la première femme que j'ai rencontrée, ça indique que j'ai vu une autre, une deuxième ou même une dixième. Mais quand je dis, j'ai vu une femme ou un homme, ça pourrait être aussi, ça s'arrête là. Ça veut dire que il y a une différence entre un et premier. Un se suffit en lui-même. Premier ne se suffit pas en lui-même, il annonce la suite. Or, le jour 1, c'est un jour qui se suffit en lui-même. Il n'a pas besoin d'autres jours, mais les autres jours dépendent de lui. C'est là qu'il est le premier-né d'entre les morts. Jésus a ressuscité Lazare, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Mais ces deux, Lazare et le fils de Naïn, sont remords. Si je peux me permettre ce mot, en français, ça n'existe pas. Sinon, les remords, c'est culpabilité, tout ça. Ils sont morts de nouveau. Mais Jésus, il est mort, il est ressuscité, il n'est jamais mort de nouveau. C'est ainsi qu'il est le premier-né d'entre les morts. Comme il est le premier-né de toute la création. Alors jour 1, c'est un jour qui ne dépend d'aucun autre, mais tous les autres jours dépendent de lui. Le jour 1, c'est le jour de la lumière, de telle sorte que nous aussi, quand nous croyons en Jésus, nous avons notre jour 1, le premier jour qui change tout dans notre vie. Mais les autres jours vont dépendre de lui. Mais ça pourrait aussi constituer toute une prédication sur le jour 1 et les implications du jour 1. Mais j'aimerais aller un peu plus loin, parce que le temps aussi nous menace. Il est vrai, les Africains, ils n'ont pas... chez eux, on dit quoi? Ils n'ont pas la montre. Vous avez la montre, mais nous avons le temps, n'est-ce pas? Nous avons le temps. Mais il nous reste peu de temps. Je vais essayer de condenser. Mes frères, mes sœurs, jour 1, à partir du deuxième jour, et qu'est-ce qui est écrit après chaque création dans Genèse 1? Il fut, à chaque conclusion de la journée, il fut un soir et il fut un matin. Il fut un soir et il fut un matin, ce fut le deuxième jour, etc. Un soir et un matin. Encore une parenthèse importante là, et j'aimerais attirer notre attention sur cela. Pourquoi est-ce qu'on commence toujours à compter par la nuit et puis le matin, le soir, le matin? C'est puisque dans le terreau mental juif, encore une fois, les ténèbres ont précédé le jour. Alors on commence à compter par la nuit, le soir, et puis le matin. Mais en d'autres termes, il termine par la victoire. Le matin, c'est la lumière, la victoire sur la nuit. Et c'est important. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, puisque nous sommes encore à Pâques, j'aimerais quand même attirer notre attention sur ça. Jésus, il est écrit qu'il est mort, il est resté dans la tombe combien de jours, combien de nuits? Oh! 3 jours et 3 nuits, maintenant comment comptons? Comptons bien. Il est mort à 15h. Vendredi, 15h, Jésus rend l'âme. Samedi, 15h, c'est un jour. Dimanche, il est réveillé à quelle heure, Jésus? Il est sorti de la mort à quelle heure? Avant le matin. N'oublions pas cela. Jésus est né la nuit, il a vaincu le Satan. La nuit, il est sorti de la mort, la nuit. Avant le matin. Ça veut dire que ce n'est même pas un jour et demi. Dans notre terreau mental occidental, ce n'est pas 3 jours. Mais comment compter que Jésus est resté dans la tombe 3 jours? Il faut encore nous reporter à la réflexion mentale juive. Comme je disais tout à l'heure, la nuit, dès que le soleil se couche, c'est déjà le jour suivant. Et tout ce qui précède est compté pour le jour. Donc, le vendredi, parce qu'il est écrit que Jésus, il fallait le descendre de la croix avant la tombée du soleil, parce que c'est le début du sabbat. Le sabbat commence de la tombée du soleil. Et ce jour-là, c'est déjà le premier jour pour les Juifs. Et le samedi, jusqu'à la tombée du soleil, c'est déjà le deuxième jour. Et tout ce qui va suivre après la tombée du soleil, c'est déjà le troisième jour. C'est comme ça que Jésus, nous pouvons expliquer à des gens qui disent « Mais votre Bible, c'est des erreurs. » Ils disent que Jésus est resté dans la tombe 3 jours. Voilà comment on peut expliquer. C'est une parenthèse importante. Alors, j'en reviens à cela, à ceci que à chaque jour de la création, il est écrit, il fut un soir et fut un matin. Un soir, un matin. Mais lisons, tournons en Genèse encore, c'est beau. Genèse chapitre 1, verset, le dernier verset, et lisons jusqu'au chapitre 2, verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là? Genèse chapitre 1, verset 31, jusqu'au chapitre 2, verset 3. Encore un ou une volontaire?
Dieu
soir, puis un matin. Ce fut le sixième jour.
Chapitre 2, jusqu'au verset 3.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour et en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie.
Et il fut un soir, il fut un matin, ce fut le huitième jour. C'est ainsi qu'il est écrit ? Non. Ce jour-là n'a pas de soir. C'est très important. Le septième jour, mes frères et sœurs, n'a pas de soir. C'est un jour sans soir. Tous les autres jours conduisent au jour sans soir. Le jour sans soir, c'est un jour lumineux. Jour où il n'y a pas de ténèbres. Et c'est ce qui nous rapporte à la mission de Jésus qui est écrite dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Chapitre 21, à partir du verset 18, on peut lire jusqu'en bas là, il est écrit qu'il n'y avait pas de temple dans ce... Je crois, permettez-moi s'il vous plaît qu'on lise ça. Je vois le temps quand même, mais c'est important. Lisons quand même le dernier livre de la Bible et pour voir cette victoire finale. Cette victoire de la lumière sur les ténèbres. Chapitre 21. Quelqu'un peut-il nous lire déjà à partir du verset 1 jusqu'à 5 d'abord. Et puis nous allons lire à partir du verset 22. Chapitre 21, Apocalypse, verset 1 à 5.
Et je vis en mon ciel une nouvelle terre, et un premier ciel, et un premier ciel, et un premier ciel, et un premier ciel, et je viens sur du ciel d'auprès de Dieu. La nouvelle Jérusalem préparée au milieu de vous, qui se parlait du son épouse. J'entendais du vol une forte voix qui disait : voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Verset 22, jusqu'au chapitre 22, verset 5.
Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point, ne se fermeront pas le jour, car elles n'y prendront point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.
Jusqu'au vers chapitre 20, continue jusqu'au verset 5 du chapitre 2.
Et il me montra un fleuve d'eau de la ville limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus à atteindre le trône de Dieu et de l'agneau sur la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle.
Ah voilà, que c'est formidable. Est-ce que je peux être permis d'enlever ça? J'ai chaud. Mais je m'arrête là, hein. Ça va. Je m'arrête là. Mes frères, mes sœurs, c'est formidable de voir que le récit de la création était une prophétie de Dieu sur ce qui va arriver. Le septième jour, jour sans soir. Jour sans soir. C'est que Jésus, la lumière, quand il arrive, il inaugure le jour 1 et il nous conduit au 2, 3, 4e, 5e, jusqu'au 7e jour, le jour sans nuit. Le jour sans soir. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de besoin de soleil, parce que Jésus est son soleil. Jésus est la lumière. Or, Jésus, c'est la lumière du monde. Donc, Pâques nous conduit vers le jour sans nuit. Le septième jour, le jour du repos, le jour du sabbat, le sabbat de Dieu. Il nous conduit là vers le sabbat éternel, le jour qui ne se termine pas. Et il est écrit, je n'ai pas vu de temple dans cette ville. Pourquoi pas de temple? Nous souvenons-nous que lorsque David a voulu créer, construire un temple à Dieu, Dieu lui a dit, oh là là, c'est gentil, mais moi, je ne peux pas être contenu dans une maison faite de mains d'hommes, parce que déjà le ciel, c'est mon trône, et la terre, c'est mon marchepied. Mais je ferai résider mon nom dans la maison que tu vas me faire construire, me construire. Mais bien sûr, ce sera ton fils qui le fera. Voilà. Je vais y faire résider mon nom. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas être contenu dans un temple, mais il fait résider son nom. Il est ici par son nom. Mais ce jour-là, on verra Dieu face à face. Il n'aura plus besoin de construire des temples parce que lui-même est le temple. Alléluia. Dieu, c'est formidable ces choses-là. Et nous n'aurons plus besoin de lumière parce que Jésus est le flambeau. Il est là, le septième jour, jour sans nuit. Il y a aussi un autre détail. Les portes seront tout le temps ouvertes. Pourquoi? Il est écrit dans l'Apocalypse 21, parce qu'il n'y a plus de nuit. Pour nous revenir un petit dans un détail historique, il y a ce qu'on a... Avant, il y avait des portes. Chaque ville avait une porte. À Bruxelles, vous avez une porte de Namur, sans souvenir de Namur qui avait une porte. Porte d'Anvers, etc. C'est-à-dire que, d'ailleurs, à Namur, il y a une citadelle. Il y a une citadelle, là, encore. Hein. Ça veut dire que les jours... chaque ville était entourée d'une muraille. Il y avait une porte pour surveiller. Et cette porte était ouverte la journée. Mais la nuit, elle était fermée. Et il y avait une citadelle pour surveiller s'il n'y a pas d'ennemis qui viennent. Et ici, il est écrit qu'il n'y aura plus besoin de fermer les portes parce qu'il n'y aura plus de nuit. Alléluia. Il n'y aura plus de nuit. On n'a plus besoin de fermer les portes. La ville, la nouvelle Jérusalem sera ouverte. Ah, et la mort aura été vaincue. Jésus, le premier-né d'entre les morts, qui a vaincu le Satan dans ce combat de corps à corps, aura remporté la victoire. Et il va nous accorder cette vie qui ne finit pas. Il n'y aura plus de souffrance. C'est là que nous allons voir nos frères et sœurs qui nous ont précédés, les membres de nos familles. Et là, ce jour-là, je serai heureux d'embrasser mon papa, ma maman, mes sœurs, mes frères qui m'ont précédé, d'embrasser les autres frères et sœurs dans le Seigneur. C'est là où nous allons revoir tous les bien-aimés qui nous ont quittés. Votre pasteur qui est ici avant, le pasteur Jean-Claude Fozzo, sa femme et Angélique, nous allons les voir ce jour-là parce que nous entrons dans le jour sans nuit. Le jour sans nuit où la mort n'existe plus, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pleurs. Dieu va nous essuyer les larmes. Le jour sans fin, le jour qui marque la victoire finale, totale et effective. De la lumière sur les ténèbres. Que le Seigneur nous encourage, mes frères et sœurs, par ces paroles que Dieu a voulu nous dire dans sa fidélité, comme il nous a été rappelé depuis le début de ce culte, la fidélité de Dieu, qu'il reste fidèle dans ses promesses. Il a promis que la descendance de la femme allait écraser la tête du serpent et il y a tenu. Jésus est venu, il a remporté la victoire. Et nous tous qui sommes en Christ, nous avons cette victoire. Et un jour nous dirons, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, nous dirons, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus a remporté la victoire. Que cette victoire soit la nôtre aujourd'hui, dans cette période pascale. Que cette victoire nous anime et qu'elle nous booste à aller de l'avant, de victoire en victoire. Et les ténèbres n'auront plus d'effet sur nous, parce que Jésus a vaincu. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Pardonnez l'Africain que je suis, qui a pris tout le temps.